Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Benjamin Blanchard au micro et je suis bien sûr avec Henri de Villiers. Bonsoir, cher Henri.
Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, chers auditeurs.
Et nous nous retrouvons pour notre 110e épisode à la découverte des églises d'Orient et le 44e consacré à la Russie. Nous avons passé pas mal de temps avec le schisme des vieux croyants. Voilà. Et je crois que nous en avons terminé.
Oui.
Et nous allons reprendre le cours de l'histoire russe,
là où on l'avait laissé.
Voilà, mais avant cela, comme d'habitude, nous attarderons sur la fête du jour. Et là, aujourd'hui, c'est Pâques.
C'est la fête des fêtes, la solennité des solennités, comme le chant de Saint Jean Damascène dans le canon qui est chanté justement cette nuit au matin de Pâques.
D'ailleurs, il est encore temps. Hein.
Il y a encore temps de venir. Dépêchez-vous. On va commencer après cette émission. On va démarrer à 21h30 et bien sûr vous pouvez nous rejoindre en cours de route. Il y a des sympathiques agapes à la fin, la vodka va participer aussi à la réjouissance de Pâques et de la résurrection. Et en fait donc c'est le dernier office du carême, le petit office de minuit, pendant lequel en fait on va subrepticement retirer la plachanitsa, c'est-à-dire la représentation du Christ au tombeau, qui a été enseveli le vendredi saint symboliquement au milieu de l'église, et donc on va enlever le corps du Christ du tombeau quelque part et le mettre sur l'autel, et la liturgie va être célébrée avec cette plachanitsa, avec ce suaire comme nappe d'autel en quelque sorte. Donc le prêtre va dire la messe avec la représentation du Christ au tombeau pour symboliser la résurrection. Et donc après ce petit office qui est encore dans les tonalités un peu lugubres du carême et de la grande semaine, eh bien l'explosion de la joie pascale, une procession, on fait le tour de l'église normalement, c'est pour symboliser la venue au tombeau au tout petit matin de Pâques des femmes mirophores, des saintes femmes mirophores qui viennent pour embaumer le corps du Christ et qui trouvent le tombeau ouvert et vide. Et donc arrivé devant les portes de l'église, le prêtre proclame solennellement le début de l'office de matine, qui démarre donc à l'extérieur, puis on rentre dans la joie dans l'église, et puis on chante le magnifique canon pascal de Saint Jean Damascène, qui est une œuvre du 8e siècle, et qui est une splendeur théologique. Et les matines de Pâques s'achèvent, on se donne le baiser pascal, parce que le texte de Saint Jean Damascène dit... appelons frères même ceux qui nous haïssent, et donc dans cet esprit on partage la joie pascale. Donc traditionnellement on vient embrasser le clergé, traditionnellement en Russie c'est sur la bouche, ça commence à changer un peu maintenant, mais on voit plein de représentations de la famille impériale qui embrasse le jour de Pâques.
Vous ne suivez pas les traditions.
On a quelques réserves peut-être françaises sur ce point, mais on a des photos des grandes duchesses, du tsar qui embrasse les serviteurs, les soldats et tout ça le jour de Pâques sur la bouche en fait. Hein. Bon, c'était tout à fait normal et culturel en Russie. C'est le baiser pascal. Et puis à la suite de ça, on enchaîne avec les petites heures, l'heure pascale, ce qui tient lieu de prime, tierce, sexte. C'est un office très joyeux, intégralement chanté, alors que d'habitude ces petites heures sont récitées tout le reste de l'année. Et la divine liturgie du jour de Pâques, qui est dite donc dans la nuit de Pâques en fait. Hein. Donc ne venez pas à la paroisse demain matin, vous trouveriez porte close, parce qu'en fait tout a lieu dans la nuit.
Donc rendez-vous pour ceux qui sont parisiens et qui peuvent se libérer ce soir à partir de 21h30 à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, 39 rue François Bonvin. Rue François Gérard, à côté de l'église d'Auteuil.
C'est une autre église.
Oui, oui.
Et donc, nous avons déjà eu la vigile pascale ce matin, comme avaient les latins avant la, les réformes de Pie XII.
Les funestes réformes.
Voilà. Et donc, c'est vraiment la messe du jour de Pâques qui est dans la nuit, en fait. C'est-à-dire que tout s'est avancé. Et la messe que vous avez chez les latins le jour de Pâques, eh bien, elle est déjà dans la nuit, avec beaucoup de pièces qui sont en commun. Par exemple, le graduel est le même qu'on soit à Rome ou à Moscou ou à Constantinople, c'est-à-dire « Ec dies quam fecit Dominus », »« Voici le jour que le Seigneur fit, exultons et réjouissons-nous en lui ». Ce qui montre en fait la grande ancienneté de toutes ces pièces qui remontent à l'époque de l'unité de l'Église indivise. Alors on va se mettre un peu dans cette ambiance, un avant-goût de cette nuit pascale, avec les parties les plus emblématiques de cette nuit pascale, chantées par les merveilleux chœurs monastiques du monastère de la Sainte Trinité à Sarrièvre-Posade, donc un monastère que nous avons déjà évoqué, le monastère fondé par Saint Serge de Radonège, qui est un peu l'équivalent de notre Jeanne d'Arc, en fait, celui qui a galvanisé le courage des Russes pour lutter contre l'envahisseur tatar. Et c'est un monastère important. Pendant toute la période communiste, ça a été le lieu où le patriarche de Moscou était reclus un peu. On laissait un peu quelques activités parce que symboliquement, c'est un peu l'équivalent du Vatican. Voilà, c'est.
Ce sera un avant-goût de ce que vous entendrez ce soir à la très sainte Trinité.
Oui, peut-être moins bien chanté, hélas. Oh. Mais on va les capacités vocales des moines de Sarrièvre-Posade qui ont eu en plus un chef de chœur extraordinaire qui a vraiment insufflé une vitalité importante au chant liturgique à cet endroit. Donc on va écouter, alors vous allez entendre au début, les 12 coups de minuit, puis la procession, alors avant les 12 coups, la procession autour de l'église avec un chant qui enfle, il faut imaginer qu'on est dans la nuit, à la faible lueur des cierges, et puis on fait le tour de l'église pour symboliser les femmes qui vont au tombeau. Cette procession existait aussi dans le rite romain. Tout ça a disparu définitivement avec les réformes de Pie XII qui a supprimé les matines pascales. Enfin, Bounini a supprimé les matines pascales. C'est le seul jour de l'année où il n'y a plus de matines, en fait, dans le bréviaire. Bon, voilà. C'est quand même un peu bizarre. Et donc, on va écouter.
Digère.
On va écouter donc le verset qui ouvre les matines, qui est proclamé solennellement à l'extérieur, qui lance la joie de la résurrection, avec le fameux tropère pascal: le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans le tombeau il a donné la vie, qu'on va entremêler avec des versets de psaumes. Et puis ensuite commence le canon de Saint Jean Damascène. On va écouter en fait dans l'enregistrement la première ode du canon, la sixième ode, le Kondakion qui fait une petite pause dans le canon, et puis enfin la fin du canon avec la neuvième ode qui figure le Magnificat avec deux tropères magnifiques, l'ange chanta à la pleine de grâce et puis resplendit nouvelle Jérusalem. Enfin, autre pièce emblématique de l'office de Pâques, on a les fameuses tichères de Pâques, et puis qui se termine par le nouveau tropère pascal qui conclut les matines là avec une harmonisation absolument fantastique et éblouissante des moines de la Trinité. Donc écoutons cet office de Pâques. Alors c'est un petit peu long, j'hésite à donner les traductions en cours de route parce que en fait je pense que la joie de la résurrection est suffisamment palpable. Donc voici Pâques à Sarrièvre-Posade. Chers auditeurs, le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Thank you. Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Воистину воскресе!
Христос!
Не слушай, мы пробежим Бога.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Christos Vascresi.
Voistino Vascresi.
Le Christ est ressuscité.
En vérité, il est ressuscité.
Voilà, vous venez d'entendre, de suivre la fête de Pâques. Cette
en condensé.
En condensé, bien sûr. Mais il y avait déjà un bel aperçu dans le monastère de Sergueï Possad.
Oui.
Et voilà, c'était en plus très bien chanté. Je pense que vous avez pu ressentir la joie, l'exubérance. De la joie pascale.
C'est vraiment une fête extraordinairement populaire en Russie. Après les matines, il y a une bénédiction des œufs de Pâques avant la liturgie. Et on voit parfois dans les églises, en fait, les prêtres lancer les œufs sur les paroissiens. En fait.
Alors, pourquoi cette histoire d'œufs pour Pâques, Henri ?
Alors, c'est un.
C'est à cause du chocolat ? Non, je crois
pas. Non, pas vraiment. Ce sont les vrais œufs. Parce que les poules avaient ordre de ne plus pondre pendant le carême, puisqu'en fait, comme c'est un mets qu'on ne peut pas consommer pendant le carême, puisque le jeûne est très sévère, aussi bien en Occident qu'en Orient initialement. En Occident, il s'est beaucoup adouci et réduit à presque plus rien aujourd'hui. Mais c'était pire que végétalien. Normalement, on ne mange rien d'animal, donc bien sûr pas d'œufs. Et même l'huile, chez les Byzantins, l'huile n'est pas admise. Hein. Donc c'est que des légumes bouillis ou du pain. Voilà, mais pendant 40 jours. Et donc, les poules ont pondu quand même pendant ce temps. Donc, il faut pouvoir les manger à nouveau, ces œufs. Et quelque part, c'est aussi un signe de vie, évidemment. Donc, cette bénédiction qui existe aussi dans le rite latin se fait. Après la vigile pascale latine, voilà.
Si vous étiez là à Saint-Eugène la semaine dernière,
vous auriez eu les œufs de Pâques de Saint-Eugène.
Béni. Voilà.
Alors, vous pouvez avoir ceux de la paroisse russe catholique ce soir, n'hésitez pas à venir. Bon, je pense pas que le prêtre les lance sur l'assistance. Mais c'est très joyeux, les gens se jettent pour les attraper au vol.
Je précise que les œufs sont cuits, hein, pour rassurer ceux qui voudraient venir.
Voilà. On a fini d'évoquer la fête des fêtes et la solennité des solennités, la grande fête de Pâques, la fête de la résurrection de notre Seigneur. Et on va reprendre le fil de nos émissions historiques où on déroule l'histoire de la Russie, en mettant bien sûr l'accent à chaque fois sur les aspects spirituels qui apparaissent à telle ou telle époque, évidemment.
Et je rappelle que donc... Nous sommes avec Henri de Villiers pour la série d'émissions La découverte des églises d'Orient. Nous sommes au 110e épisode et le 44e consacré à la Russie.
Nous avions laissé le fil de notre chronologie russe au règne d'Alexis Ier Romanov, le premier des tsars Romanov, parce que pendant ce règne est intervenu le schisme, le rascol, le schisme entre les nouveaux croyants et les vieux croyants, ceux qui suivaient les réformes nombreuses et variées. On a vu la semaine dernière qu'il y avait même une réforme du chant qui était faite un peu complexe, hein, c'était pas simplement le nombre de doigts pour se signer, il y avait énormément d'aspects qui étaient bouleversés dans la vie du croyant russe, et on a consacré donc une série de plusieurs émissions à ce schisme, à ce rascol des vieux croyants. Et on va reprendre donc là où nous étions restés pendant le cours du règne d'Alexis Ier. Alors on avait quand même bien balayé le règne de ce premier tsar Romanov, on avait vu son accession au trône avec la diarchie qui s'était instituée avec son père qui était le patriarche de Moscou, Romanov, et c'était aussi la fin du temps des troubles en fait. Alors là, on arrive à la fin du règne d'Alexis Ier Romanov, et cette fin de règne est plutôt paisible. Il va être marqué par deux grands ministres. On pourrait parler de premier ministre, même si bien sûr le titre n'existe pas sous cette forme. Il y a un premier ministère d'un certain Ordin Natchokhine, qui est un gentilhomme de Pskov, de petite noblesse. et qui s'était illustré lors des négociations de paix entre le tsar de Moscou et la Pologne, notamment la paix d'Andrusovo qui avait, on l'avait vu, permis à la Russie d'acquérir Kiev, l'ancienne capitale, et Smolensk, et toute la rive gauche du Dniepr, en fait. Hein. Une fois le succès de ces négociations, Natchokine devient le premier ministre du tsar. Il va s'appliquer à réformer, dans la mesure du possible, tout ce qu'il pouvait réformer, l'armée, le commerce, la diplomatie, le code du droit. Et en fait, il avait de grandes ambitions. On pourrait le comparer à un Colbert, en fait, version russe.
Et en quelle année sommes-nous, là ?
Là, on est dans les années 1660, à peu près. Donc, ça correspond à peu près à Colbert, à peu près.
Donc, la Pologne est affaiblie, mais pas encore...
Voilà.
Mais encore debout.
Oui, et puis elle a quand même des possessions assez étendues encore. Elle n'est pas réduite comme une peau de chagrin. Il y a une chose intéressante dans ce ministère d'Ordine Natchokin, c'est qu'il va, éclairer l'esprit de son souverain, faire traduire en fait en russe les gazettes étrangères. C'est la naissance de la presse en France, au Royaume-Uni, et donc il va se faire procurer ces gazettes qui paraissent en Hollande aussi, et les faire traduire en russe pour éclairer l'esprit du souverain. Et quelque part, il fonde le premier journal russe, mais qui n'est réservé qu'au tsar et que pour l'usage du tsar. Voilà. Pour faire ses réformes, il va montrer au tsar tout ce qui est bien ailleurs. Et en fait, il est contraint de louer l'étranger et de critiquer ce qui est russe, en fait. Et ça va lui susciter quantité d'ennemis, comme on peut imaginer. Mais comme c'est un travailleur infatigable et incorruptible, ce fut un grand ministre. Alors, il meurt et le tsar lui donne un successeur avec un certain Artemy Matveyev. Alors ce Matveyev, il va être plus important pour la suite de l'histoire qui va nous occuper. Lui aussi, il est de petite noblesse et il est dans la même optique que le précédent ministre, c'est-à-dire qu'il va pousser à une ouverture vers l'Occident. Et donc, quelque part, ça annonce déjà, dès le règne d'Alexis, les futures grandes réformes de Pierre le Grand, bien sûr. On est déjà dans cette optique d'une ouverture vers l'Occident du monde russe.
C'est toujours l'éternel dilemme.
Oui.
Parce qu'on se tourne vers l'Est ou vers l'Ouest.
Exactement, et c'est encore le cas aujourd'hui.
On voit régulièrement une alternance.
Oui, exactement. Ce Matveyev, désolé du lapsus, va avoir aussi un ministère efficace auprès d'Alexis. Et en 1669, la tsarine meurt. Donc la tsarine, Maria Miloslavskaya, elle meurt et elle laisse des époux, deux fils et plusieurs filles.
Donc son épouse Alexis.
Son épouse Alexis. Mais du coup, le tsar se retrouve veuf et vient dîner chez son ministre Matveyev. Et là, à table, il y a une belle jeune fille qui vient servir le tsar. Et qui lui plaît par son air de modestie et d'intelligence. Et il s'agit de Nathalie Narychkine, qui est une nièce de Matveyev, une nièce du Premier ministre, et qui l'avait adoptée, et qui la traite comme sa propre fille. Et le tsar Alexis s'adresse à son ministre. « J'ai trouvé un mari pour elle », dit le tsar. Et évidemment, le mari, c'était lui-même, c'était le tsar. Donc, après seulement un an de veuvage, il se marie. Et évidemment, ce mariage va resserrer les liens, comme on peut l'imaginer, avec son propre ministre, puisque la nièce et la fille adoptive de son ministre devient la nouvelle tsarine. Donc, Natalia Narychkina, qui est comme son oncle de petite noblesse, mais ça va être la mère de Pierre le Grand. Et cette jeune fille qui arrive dans ce Kremlin va introduire dans le Kremlin une atmosphère de jeunesse et de gaieté que le Kremlin avait rarement connue, parce qu'Alexis était quand même un tsar très austère et sévère. On avait vu qu'il avait réprimé l'usage des instruments de musique, qu'il interdisait le théâtre, qu'il était très pieux, mais qu'il fallait tout ce qui pouvait distraire des questions ecclésiastiques, ça n'allait pas du tout. Donc là, on a quand même un vent nouveau qui apparaît tout d'un coup et subitement, et qui va de pair quelque part avec cette option vers l'Occident du clan Matveïev et de la famille Narychkine en général. Matveïev meublait ses appartements à l'occidental avec des meubles français. Il avait lui-même épousé une Écossaise du clan Hamilton. Et donc, on voyait que chez lui, il y avait un mode de vie tout à fait étranger aux mœurs russes. Les femmes pouvaient parler avec des hommes. Et donc, c'était très moderne. Elle pouvait se mêler à la conversation et même cela va se transmettre à cette nièce qui devient la tsarine. Et chose incroyable, la tsarine Natalia, va être la première qui fait relever les voiles de sa litière quand on la porte, et donc le peuple peut voir son visage, ses sujets peuvent voir son visage, ce qui était totalement impensable jusqu'à présent. Donc, il y a une ouverture à l'Occident, alors qui va se traduire par le théâtre. C'est-à-dire que la nouvelle tsarine va obtenir de son mari que le théâtre ne soit plus interdit. Alors, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a un ambassadeur russe, notamment à la cour de Florence, qui écrit des lettres totalement enthousiastes à Alexis.
Sur
l'opéra. Il voit des opéras et ça le bouleverse, et donc il dit que c'est fabuleux. On voit des mers qui s'enflent avec des poissons, des gens qui sont emportés dans les airs, sur des nuages, qu'il y a des palais qui montent et qui disparaissent. Enfin, il est complètement fasciné. Et donc, Alexis va autoriser la tenue de pièces de théâtre dans son palais au Kremlin, chose qu'il avait totalement interdite jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment, c'est un peu l'inverse du règne de Louis XIV quelque part, puisque Louis XIV, la dernière partie de son règne était plus dévote que la première et plus tournée vers l'Église, alors que les divertissements de cour étaient plus importants dans la première partie du règne. Une fois que le remariage s'est fait avec Dame de Maintenon, l'esprit a changé.
Oui, il a continué à soutenir les arts, moins quand la situation financière le permettait.
Bien évidemment. Alors ça reste quand même très polissé, parce que les pièces qu'on va jouer devant le tsar, ça reste quand même Joseph vendu par ses frères, l'enfant prodigue, Esther. Alors c'est amusant d'ailleurs, parce que 17 ans avant l'Esther de Racine, on a un Esther qui est produit sur les planches du théâtre impérial au Kremlin de Moscou. Alors évidemment, comme à Saint-Cyr, tout ça donne prétexte à allusion. Esther, en fait, c'est la nouvelle tsarine, Nathalie Narychkine, qui est figurée. Mardoché, c'est le ministre Matveïev, protecteur de la jeunesse et de l'ouverture. Ce qui est intéressant, c'est que cette ouverture à l'Occident va s'accompagner d'une activité diplomatique importante avec toutes les cours occidentales. C'était déjà le cas pendant tout le règne d'Alexis Ier Romanov, mais ça va s'accentuer à ce moment-là, et notamment, je note, une légation, une ambassade envoyée par Moscou à la cour du Roi Soleil. Elle est menée par Pierre Potemkin, un nom qui est bien connu, mais qui est pour l'instant encore de petite noblesse. Ce ne sont pas encore les princes Potemkin, les comtes Potemkin. Et on verra leur fortune plus tard au cours du XVIIIe siècle. Mais c'est un épisode qui n'a pas trop abouti. Potemkin vient négocier auprès de Louis XIV l'ouverture d'une ligne commerciale entre la France et le port d'Arkhangelsk. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, chose très intéressante et très touchante, le tsar Alexis avait chassé tous les marchands anglais qui étaient bien établis en Russie. Il les a renvoyés après la décapitation de Charles Ier d'Angleterre, le 30 janvier 1649. Alexis a été horrifié par, euh, par ce régicide. Et du reste, il avait un ambassadeur en Angleterre à l'époque qui devait porter des lettres au roi Charles Ier et en fait, qui a jamais pu remettre les lettres d'Alexis parce que les Anglais lui ont dit « Mais non, il est plus sur le trône, remettez-nous les lettres. » Ah, non, non, non.
Moi, il a été décapité.
L'ordre, c'est quand je les donne au roi. Mais il n'y a plus de roi. Ouais. Mais donnez-nous les lettres.
Ouais. C'est sur la mer Blanche.
La mer Blanche, oui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Rien.
Ah bon, voilà.
Mais je veux préciser pour les auditeurs oui, qui ne sont pas très au fait de le...
Oui, oui. En fait, c'était déjà un port par lequel les marchands anglais précédemment accédaient au commerce russe, qui leur ouvrait bien sûr les routes de l'Asie, de la Chine, des Swaries, de l'Inde, de l'Iran, de la Perse. Voilà. Donc c'était une ligne de commerce importante. Et manifestement, la France n'a pas sauté sur l'occasion pour remplacer l'Angleterre à cette époque. Bon. Alors, toujours est-il que on arrive à la fin du règne d'Alexis. Qui meurt et en 1676 et c'est son fils aîné logiquement qui va lui succéder. Il s'appelle Fiodor, Théodor si vous préférez, Fiodor III, Alexievitch Romanov. C'est un enfant du premier lit, de la première tsarine. Donc c'est le clan des Miloslavski. Évidemment, comme il accède au pouvoir, on peut imaginer, le clan des Miloslavski profite pour renverser leur ennemi, le clan Matveïev, qui a été celui de la seconde tsarine. Je crois qu'il est assez jeune quand il arrive au trône, il me semble... je n'ai pas noté. Merci pour cette question. Attendez, on va retrouver ça.
Il avait 20 ans.
20 ans, voilà. Donc c'est un bel âge déjà pour l'époque. C'est pas si jeune.
En 1876, il avait 14 ans.
14 ans, bon.
Il est mort à 20 ans.
Alors, il a l'influence de son précepteur. Alexis lui avait donné un précepteur dont on va reparler par la suite, Séméon de Polotsk, qui est un ecclésiastique, et qui lui avait donné le goût de l'étude et des sciences en particulier. Donc, c'est un esprit très intelligent, très bien formé, très bien éduqué. Le drame de Fiodor III, c'est qu'il est très faible physiquement. Il est scrofuleux, il a beaucoup de mal à se déplacer.
Qu'est-ce que ça veut dire, scrofuleux ?
C'est une maladie qu'on appelait aussi les écrouelles autrefois. Vous savez, c'est ce genre de cancer un peu bizarre, une tuberculose de la peau. Il aurait fallu qu'il aille à un sacre de roi de France et que le roi de France le touche pour être guéri des écrouelles, des scrofules, mais donc ça n'a pas été le cas. Donc il a cette souffrance physique en lui. Donc on se doute que ce règne va pas être très très long, parce que dès le départ il est faible physiquement. Mais ça va être un règne très intéressant et plutôt profitable à la Russie. Et le premier acte que va poser Fiodor III, c'est la création d'une académie gréco-latine à Moscou. Alors, c'est un point très intéressant parce que c'est le premier établissement d'enseignement structuré en Russie. Donc, ça arrive assez tardivement. Hein. On est dans les années 1678. Et cette académie, qui par la suite s'appellera l'Académie slavo-gréco-latine de Moscou, existe toujours. Elle survit justement dans le monastère dont nous avons écouté le magnifique office de Pâques, c'est-à-dire
Sergiev
Posad. Voilà. C'est une des académies de Sergiev Posad. Elle fait pendant à l'Académie de Kiev qui avait été fondée par Pierre Mogila, qu'on nous avions évoqué sur ses ondes il y a déjà quelques émissions, et qui était une académie pour sur le modèle des jésuites, très clairement, que Pierre Mogila, évêque de Kiev, évêque orthodoxe de Kiev, avait fondé pour permettre d'éduquer le clergé de la petite Russie et lui a donné des armes intellectuelles pour pouvoir discourir avec les latins. Et là, c'est un peu le même propos. Et dès le début de l'académie, en fait, très clairement, on se place dans un débat avec le monde latin, avec la théologie latine, catholique. Et les premiers débats sont autour de la question de la transsubstantiation. À quel moment exact dans la messe le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, en fait. Alors, parce que pour les Occidentaux, c'est très évident, c'est au moment du récit de l'institution, mais pour les Orientaux, c'est un débat un peu plus intense. Et beaucoup pensent qu'il s'agit plutôt du moment où le Saint-Esprit descend sur les dons lors de l'épiclèse. Donc on avait déjà évoqué ces questions dans d'autres émissions.
Et donc la question, hein, je rappelle, c'est pas de savoir s'il y a transsubstantiation, hein, mais c'est quand.
C'est le moment, la transsubstantiation.
Qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation.
Voilà, exactement. Vous faites bien de le rappeler. Mais c'est une académie qui va avoir du mal à démarrer un petit peu. Elle est placée dans un monastère de Moscou au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas seulement pour former des ecclésiastiques russes, en les ouvrant au monde occidental, parce qu'il y a un accès à la culture occidentale par l'apprentissage du grec et du latin, surtout du latin. Et c'est une chose qui va demeurer dans l'orthodoxie russe jusqu'à très récemment. Au séminaire en Russie, on apprend le latin.
Et ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, je suis pas sûr, mais ça a été le cas jusqu'au XXe siècle. Et encore récemment, en fait, vous aviez jusqu'à l'opération spéciale en Ukraine, beaucoup de séminaristes du patriarcat de Moscou qui étaient en formation dans les académies à Rome, en fait, hein, à la Grégorienne, à d'autres académies, voilà. Donc il y a toujours cet attrait intellectuel pour le latin, pour les sciences occidentales, pour la théologie occidentale aussi. Mais donc ce n'est pas une académie fondée par Fiodor III uniquement pour les ecclésiastiques, mais cette académie se propose aussi de former une élite civile. Et là, donc, il y a des cours de grammaire, de poésie, de rhétorique, de philosophie, des cours de sciences, des cours de physique, des cours de mathématiques, et de grands noms de l'intelligentsia russe vont sortir de cet établissement. Peut-être des noms qui ne disent pas grand-chose aux Français d'aujourd'hui, mais le mathématicien Magnitsky sous Pierre le Grand, surtout, alors lui, il est peut-être plus connu, le poète Lomonossov sous la tsarine Elisabeth.
Et au moins connu pour avoir donné son nom à une des grandes universités de Moscou.
Exactement. Et voilà, des historiens sont issus de cet établissement. Donc, il y a une efflorescence intellectuelle qui commence en Russie, enfin, pourrait-on dire, parce que finalement, la formation des élites avait quand même été un peu négligée. Et on peut voir là l'action des précédents ministres d'Alexis, hein, les deux derniers ministres, poussés déjà vers une appropriation du savoir de l'Occident. Souvenez-vous, ces gazettes qui étaient traduites pour le tsar, c'était aussi dans l'optique de lui ouvrir l'esprit aux problèmes, aux débats qui avaient lieu dans les différents pays occidentaux. Alors, oui, c'est ça. J'avais bien noté que Fiodor III arrivait à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai noté.
Oui, oui, bon, voilà, regardé avec les dates.
15 ans.
Les années, donc.
Voilà, et il va prendre comme ministre, comme premier ministre, entre guillemets, hein, puisque évidemment le titre en tant que tel n'existe pas, un prince, un boyard. Donc ça change des deux précédents qui étaient de petite noblesse. Le prince Basile Galitsyn, un nom fameux en Russie. Ce personnage dont on va reparler par la suite, en fait, est l'amant de sa sœur. Sa sœur, une des princesses filles d'Alexis, Sophie, qui va être la future régente, en fait. Et le prince Galitsyn est un excellent chef de gouvernement qui va faire un très très bon travail.
Ça fait quand même trois d'affilée, ce qui est rare.
Oui, ce qui est rare. Et plutôt honnête à chaque fois. Et voilà, donc
encore plus rare pour un chef de gouvernement.
Des bons serviteurs de l'État. Alors, le gouvernement de Galitzine va avoir des bons succès. Un premier succès, c'est en Petite Russie, en Ukraine actuelle, si vous préférez. Vous vous souvenez, on avait vu comment les Cosaques Zaporoges s'étaient rapprochés de Moscou, puis avaient quand même essayé de garder leur autonomie, puis étaient revenus dans le giron de Moscou, puis avaient essayé à nouveau de retrouver leur autonomie. Donc, ils étaient un peu turbulents. Et donc, les troupes moscovites obligent l'attaman des Zaporoges à déposer son sceptre et finalement l'autonomie des Zaporoges disparaît. Voilà, ils sont complètement intégrés dans le reste de l'Empire russe.
Mais ils conservent leur mode de vie.
Ils conservent leur mode de vie, bien sûr.
Aussi,
mais
leur valeur ajoutée, j'imagine.
Leur autonomie politique disparaît. Bon, ce qui est quand même plutôt au crédit du gouvernement du prince Galitzine. Alors il y a un enjeu qui va être important, c'est que du coup on va avoir une l'ennemi ne sera plus forcément le Polonais en premier, mais de plus en plus le Tatar de Crimée, en fait. Périodiquement, depuis plusieurs siècles, le Khanat de Crimée ne cesse d'envoyer des razzias pour prendre des esclaves, en fait, en terre russe. Et cette lutte séculaire entre les Tatars de Crimée et les Russes va encore s'accentuer sous le règne de Fiodor III.
Et donc le Tatar de Crimée, c'est le reliquat de la Horde d'Or, des successeurs
de la Horde d'Or, et qui en même temps est un vassal du Grand Turc, du sultan d'Istanbul, en fait. Hein. Donc Fiodor III et le prince Galitzine vont faire alliance avec la Pologne. Pour lutter contre le Khanat de Crimée. Ils vont du coup réfléchir à une idée de réforme de l'armée. Donc ça annonce les réformes beaucoup plus complètes que Pierre le Grand va accomplir par la suite, mais il y a déjà une nécessité d'avoir une armée permanente, ce qui n'était pas encore totalement le cas. On va préparer ce qui va se produire par la suite, c'est-à-dire une guerre plus ouverte avec le Khanat de Crimée. Mais pour l'instant, on se prépare. Bon. Dans cette optique, Fiodor III va envoyer des ambassades un peu partout en Europe, et en particulier à nouveau en France, à la cour de Louis XIV. Cette fois-ci, c'est le fils de Potemkin qui vient présenter ses lettres de créance à Louis XIV qui essaie de flatter Louis XIV en lui montrant une bonne éducation, une sagesse pour donner une idée avantageuse de la nation russe. Un des points les plus importants du règne de Fiodor III va se produire à peu près à cette époque. On va réunir une grande assemblée, une grande Zemlis Sobor, les états généraux, si vous préférez, pour avoir un équivalent dans notre culture française, donc tout le clergé, de la noblesse, pour statuer sur les querelles de préséance. En fait, c'est un droit de préséance qui existait, qu'on appelle Miesnichestvo, et qui faisait que certains boyards, de par leur naissance, étaient garantis d'accéder aux plus hautes fonctions du gouvernement et de l'État. Et il y avait un ordre de préséance entre boyards, entre familles de grands boyards, qui leur assurait tel service, tel ministère, tel poste dans l'administration.
Comme un tableau d'avancement, quoi.
Exactement, mais héréditaire. Et en fait, ça devenait insupportable à force. Et puis la Grande Assemblée, le Zemlis Sobor, demande la suppression de ce droit de préséance des boyards sur les fonctions gouvernementales. Et donc l'ordre de préséance était réglé par un livre, le livre des rangs. Et donc en présence du tsar et de toute l'assemblée, on brûle ce livre.
Pourquoi ?
Pour dire qu'il n'y a plus de rang et que du fait de sa naissance, on n'est plus forcément garanti d'être dans tel gouvernement, dans tel poste, dans telle administration, voilà. On pose une nouvelle loi qui dit que si un boyard conteste sa disparition de l'ordre des rangs, du livre des rangs, il sera définitivement privé de sa noblesse et de ses biens. Donc ça dissuade peut-être de vouloir protester sur cette réforme. Alors, le Fiodor III avait inauguré son règne en exilant la famille de sa belle-mère, les Narychkin, la famille de la deuxième épouse de son père. Et on peut imaginer que la crise couve. Et il va mourir à 21 ans, donc c'est un règne assez court, de 6 ans, en 1682, pris de colique après avoir mangé une tarte au mûr. Donc ne mangez pas de tarte au mûr, surtout cuisinée par une Russe peut-être. Bon, en fait, plus sérieusement, on pense que c'est sa demi-sœur, que c'est sa sœur, Sophia, qui l'aurait empoisonné. Ce qui est un peu étrange, pourquoi sa sœur l'aurait empoisonné ? Parce que il était sur le point, semble-t-il,
reconnaître Pierre le Grand comme son héritier.
Voilà, exactement. Comme héritier Pierre le Grand, et sa sœur ne supportait pas que son demi-frère Pierre le Grand soit le futur tsar. Voilà. Alors, rappelons un peu la progéniture du tsar Alexis Romanov. Il s'était marié donc une première fois avec la tsarine Maria Miloslavski. Et il avait eu deux fils, Fiodor III, donc qui meurt à 21 ans, et un autre fils, Ivan, et six filles. Et parmi ces six filles,
Ivan meurt très jeune aussi.
Alors non, mais on va voir. Ivan est débile. En fait, comment dire autrement les choses.
Je crois que c'est clair.
Voilà. Donc, il est pas apte à régner, ni physiquement ni intellectuellement. Et il y a six filles, dont une certaine Sophie, fille d'Alexis, Sofia Alexievna. Donc ça, c'était le premier lit, donc 8 enfants au total, et de sa seconde femme, Nathalie Narychkine, qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien, un seul fils, Pierre, et deux filles. Évidemment, les deux factions, on peut imaginer, étaient en guerre l'une contre l'autre, les deux clans se sont opposés. On a vu que avec Fiodor III, c'était le clan de la première épouse qui triomphait. Mais Fiodor mourant, les deux clans se retrouvent face à face à nouveau. Alors le premier clan, les Miloslavski, avaient pour eux l'ancienneté, le fait que Ivan était le deuxième fils dans l'ordre de primogéniture, donc c'était lui qui devait accéder au trône normalement à la mort de son frère aîné. Mais Ivan était, comme on l'a dit, imbécile de corps et d'esprit. L'autre clan, les Narychkin, avait aussi pour eux qu'il y avait un fils, Pierre, qui montrait lui en revanche une intelligence précoce. Et puis surtout, la dernière tsarine était toujours en vie. Et elle était veuve-mère. Dans la mentalité russe, elle a aussi une importance parce qu'elle représente la continuité du pouvoir du père aussi. Les deux factions se retrouvent à nouveau en guerre à la mort de Fiodor III, le premier fils en fait, qui n'a pas eu le temps d'avoir d'enfants viables. Il en a eu, mais ils sont morts très, très jeunes, et lui-même meurt à 21 ans. Qui va succéder ? Est-ce qu'on va mettre sur le trône Ivan, mais c'est un débile, ou Pierre, c'est pas le même fils et le demi-frère, c'est pas le frère. Alors, qui tranche ? Eh bien, les grands boyards se réunissent et le patriarche de Moscou se réunissent et ils vont acclamer tsar le jeune Pierre, en fait, qui n'a que 9 ans pour l'instant.
Aux grandes dames de la famille et de la belle famille.
Voilà.
Du tsar.
Le clan Miloslavski du premier lit, évidemment, voit très mal les choses. Et le clan Narychkine triomphe enfin après avoir été renversé par le précédent règne. La vieille tsarine veuve d'Alexis rappelle toute sa famille de leur exil. Même le ministre Matveïev, qui avait été exilé à la mort d'Alexis et au début du règne de Fiodor III, revient. Et évidemment, on peut imaginer que les Miloslavski veulent trouver une solution. Alors, il y a les sœurs. Ivan est débile, mais il reste six filles. Et sur ces six sœurs, il y en a la plus âgée à 32 ans, la plus jeune 19 ans, mais c'est ni l'une ni l'autre qui va prendre les choses en main, c'est Sophie qui a 25 ans. Alors ces six princesses se voient condamnées à une perspective très austère. Si elles savent que si l'autre clan gagne, elles seront au couvent toute leur vie. ça ne les réjouit pas. Et donc, la plus intelligente et la plus ambitieuse, c'est Sophie. Et elle a le goût du pouvoir, elle veut pas finir sa vie dans un couvent. Je vais donner la description de l'ambassadeur de France à l'époque, qui parle de son physique comme d'un corps d'une grosseur monstrueuse, avec une tête large comme un boisseau, du poil au visage et des ulcères aux jambes. Autant sa taille est large, courte et grossière, autant son esprit est délié et politique, et sans avoir jamais lu Machiavel ni pris de leçons, elle leur possède naturellement toutes les maximes. Voilà, donc cette Sophie va faire un coup d'état. Et elle va être très très intelligente. Déjà, elle va paraître aux funérailles de son frère, alors que normalement...
Oui, raconte Pierre. Comment ? Contre le successeur, Pierre.
Oui. Pierre, le patriarche de Moscou a déclaré que c'était Pierre le successeur, les boyards ont déclaré que c'était Pierre.
C'est pas grave. Il n'y a pas de
problème. C'est pas grave, on va voir comment on va faire. Déjà, elle commence par faire un acte d'éclat. Elle paraît aux funérailles de son frère, le tsar Fiodor III. Alors que normalement, ce ne devrait être que la veuve du tsar et son héritier qui devraient conduire les funérailles. Donc elle est là en première ligne pour les funérailles. Bon, déjà, c'est... C'est un indice. Après, elle va actionner toutes sortes de leviers. Alors, le temps nous manque un peu, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais notamment des intellectuels qui vont écrire des poèmes en son honneur, la comparant à la princesse Olga, la mère de Saint Vladimir le Grand, Saint Olga. Et ils vont la comparer dans d'autres poèmes à l'impératrice Pulchérie de Constantinople, qui avait pris le pouvoir sous le nom de son frère qui était incapable, l'empereur Théodose, et qui en fait avait assuré la réalité du pouvoir. Il la compare aussi à Élisabeth Ière d'Angleterre, la reine vierge, à Sémiramis, tant qu'on y est.
Sémiramis,
c'est une princesse, c'était à l'époque d'Alexandre, il me semble. Et donc, ils vont dire que son prénom, Sophie, c'est la sagesse, que la chose lui avait été donnée avec le nom. Donc, c'est des poètes célèbres à l'époque et qui vont écrire des ouvrages en son honneur. Et du coup, c'est de la communication politique, en fait. Hein, on diffuse une image positive. Et en fait, elle va aussi actionner d'autres leviers, notamment auprès du peuple. Et elle va s'appuyer sur le corps des Strelsti. C'est un corps militaire qui avait été institué par Ivan IV le Terrible, et qui sont des soldats issus plutôt de des petites classes de la société.
Et des soldats plutôt instruits.
Non, pas trop instruits, mais qui font office de policiers, de sapeurs-pompiers, de gardes du Kremlin de Moscou, voilà, qui assurent un peu la police dans l'Empire. En fait, elle va faire courir un bruit que, eh bien, Ivan, le fils débile d'Alexis, a été tué par Pierre, le futur Pierre le Grand.
Qu'ainsi, Pierre a débarrassé l'Empire de...
Voilà, et que...
De ce danger.
Eh bien, ça suscite la pitié pour les autres enfants du premier lit d'Alexis. Les gens sont indignés, le petit peuple se soulève, et puis en fait la ville s'agite, Moscou s'agite, et le tocsin sonne au clocher des églises, et puis les streltsy prennent les armes et arrivent au nombre de 20 000 au Kremlin avec l'arme à la main. Et là au Kremlin, la vieille tsarine Nathalie Narychkine est avec son fils Pierre le Grand, âgé de 9 ans, et puis montre le demi-frère Ivan, que Sophie prétendait avoir été tué. Donc il est bien vivant, tout le monde le voit. Donc là, ça calme évidemment la fureur du peuple et des streltsy, parce que voilà, c'était une calomnie finalement, et on les a trompés. Et là, il y a un événement idiot qui se passe. Le prince Dolgoruki, qui est un prince de la cour, mais qui a sous son parmi ses attributions de diriger les streltsy, les engueule en disant mais pourquoi vous faites cette sédition en fait, et il leur tient un discours qui n'est pas très sympathique en fait, qui est même plutôt violent, et c'est idiot parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire, ce discours, et du coup ça a réveillé la fureur des streltsy. Donc il se jette sur le prince Dolgoruki, il le précipite du haut de l'escalier, ils le mettent à terre, ils le piquent avec leur lance, sous les yeux de la tsarine.
Mais ça, tout ça dans le château.
Oui, au Kremlin. Et ils égorgent l'ancien ministre Matveyev, donc l'oncle de la tsarine, de la vieille tsarine, de la tsarine douairière, pourrait-on dire. Et ils vont parcourir tout le Kremlin en exterminant tout ce qui leur tombe sous la main. Le frère de la tsarine Nathalie est jeté par la fenêtre. Il y a des streltsy avec leur lance en dessous qu'ils reçoivent. Voilà, donc on va même tuer le père de la tsarine et un autre frère qui est torturé, coupé en morceaux.
Oui, donc il y a bien la volonté de couper la branche.
Oui. On n'atteint pas à la vie de la tsarine parce que quand même elle est protégée par son statut, mais tout ça... parentèle est éliminée. Et alors là, la princesse Sophie, perfidement, va se mettre à genoux devant les streltsy en leur suppliant d'épargner et d'arrêter leurs exactions, alors que c'est elle qui a tout fomenté. Donc c'est une belle scène de théâtre. Et les streltsy lui obéissent. Bon. Mais le coup d'État est fait. Et ça dure 7 jours quand même, cette épuration. Et on va trouver une solution. Donc la solution, c'est que on va trouver que il y aura non plus un tsar, mais deux tsars. Donc le premier tsar sera Ivan, qui a un petit enfant aussi, hein,
qui
est débile, voilà, qui sera le tsar en premier, et Pierre sera le tsar en second. Et si on n'accepte pas ça, on recommence l'émeute. Donc la Douma est réunie, les boyards délibèrent, ils sont pas acquis à cette solution. La plupart des nobles, ils sont même violemment opposés. On n'a jamais vu ça en Russie. Deux tsars sur le trône, c'est impossible.
En plus, deux tsars un peu fantoches au début, puisque oui, l'un est...
Deux enfants.
Deux enfants.
Oui, donc, deux enfants, dont un débile. Voilà. Et l'autre à 9 ans, donc bon. Et alors, les partisans de Sophie vont faire des grands discours devant la Douma en rappelant que Pharaon avait partagé le pouvoir avec Joseph, que Arcadius et Honorius régnaient en même temps sur l'empire des Romains, que Basile II et Constantin VIII s'étaient aussi entendus pour régner de concert, etc. Et que de toute façon, si c'était pas ça, c'était les lances des Strelsi qui allaient éliminer tous les opposants. Donc c'était peut-être le meilleur argument. Et donc, en fait, la solution des deux tsars est acceptée. Et en fait, Sophie triomphe. Parce que, de fait, on va l'appeler la régente Sophie. C'est elle qui va exercer la réalité du pouvoir, évidemment. Et elle va donner une prime de 10 roubles à tous les Strelsi pour les remercier. Elle va augmenter leur solde. Elle, en fait, dans tous les événements publics, elle va... elle va se poser comme si c'était la tsarine, en fait. Elle va symboliquement occuper toutes les, dans les cérémonies à l'église, dans les cérémonies officielles, va se placer comme si elle était tsarine, alors qu'elle ne l'est pas, c'est juste une princesse. Donc elle reçoit à l'église les honneurs de l'encensement par le patriarche, etc. Enfin bon. Alors voilà, ça va être le début de son règne, le règne de la tsarine, de la régente la Sophie. Régente. Je pense pas qu'avec les 5 minutes qui nous restent, on ait le temps d'aborder ça, mais on va au moins voir un premier problème qui se pose à elle et qui est très intéressant. En fait, elle commence son règne par traiter un problème lié au Raskolniki, au schismatique, au vieux croyant. Et donc, comme c'est la nouvelle tsarine et que les deux tsars officiels n'ont pas vraiment la réalité du pouvoir, c'est elle qui veut présider un concile réuni à Moscou, comme si elle était tsar. Et donc, elle voulait le convoquer, ce concile, sur la place Rouge. Alors les évêques sont pas contents, ils finissent par se réunir dans le palais aux facettes. Et là, c'est très intéressant, puisqu'elle va faire construire un trône, un trône double, pour mettre les deux enfants dessus.
Mais donc, tous les deux du même côté.
Oui, du même côté, au même endroit.
C'est, pas dos à dos, quoi.
Non, non, côte à côte. Donc Ivan et Pierre le Grand. Et puis, dans le dossier... Il y a une petite ouverture avec un voile de soie, et en fait, elle est assise derrière, et elle leur souffle, elle tire le voile quand il faut qu'elle agisse et qu'elle donne son avis, et puis elle le referme. Et en fait, ce meuble, on le voit toujours à Moscou, et c'est vraiment un emblème de cette période un peu folle avec ces deux tsars. Enfant et de cette régente Sophie.
Il y a un portrait d'elle par Répine absolument terrible. Hein.
Tout à fait. Et on peut voir encore ce meuble très singulier qui est le symbole de ce gouvernement inouï, de deux tsars visibles et d'une souveraine réelle invisible, en fait, hein, derrière son petit voile. Alors, ce concile, ça se passe pas super bien. Parce que les vieux croyants contestent une nouvelle fois les réformes entreprises par le patriarche Nikon, précédemment sous le règne d'Alexis. Et il se trouve que les Strelsi, qui ont assuré le coup d'État, qui sont donc les alliés normaux de la régente Sophie, sont plutôt des gens du peuple et sont très largement partisans de la vieille foi, sont en fait des vieux croyants. Sophie, logiquement, aurait dû se ranger de leur côté et appuyer les thèses vieilles croyantes. Or, elle a été éduquée par le même Siméon de Polotsk, comme son frère Fiodor III, et qui lui était leur précepteur, qui leur a enseigné les sciences, qui était un vrai éducateur, mais qui était aussi... le principal organisateur du Grand Concile de Moscou qui a condamné les vieux croyants. Et en fait, elle est sous l'influence de ce qu'elle a reçu par son précepteur, donc elle a pleinement
hostile,
adhéré aux réformes liturgiques, et donc elle ne se range pas du côté des Strelsi, du côté des vieux croyants, et elle va au contraire tourner le concile vers l'exécution des schismatiques. Donc la plupart des partisans vieux croyants qui se sont présentés au concile pour défendre leur thèse sont brûlés sur la place Rouge. Et les membres, les chefs les plus importants des Trelsti sont même exécutés de même, et donc en particulier le chef des Trelsti. Et comme on peut l'imaginer, ça renverse les alliances, c'est-à-dire qu'elle qui s'est appuyée sur ces troupes-là pour prendre le pouvoir, bah, finalement elle peut plus du tout compter sur eux. Et en fait, elle va quand même, on pouvait alors il y a plusieurs épisodes, pour résumer parce qu'il nous reste très peu de temps, la régente Sophie va devoir quitter Moscou parce que c'est plus sûr, les Streltsy sont là, c'est les gardes du Kremlin, donc elle peut être trucidée par eux, puisque leur animosité est tout d'un coup importante pour la princesse Sophie, pour la régente Sophie. Donc elle s'enfuit au couvent de Sergiev Posad, une fois de plus, ce grand monastère que nous avons évoqué dans cette émission. Comme c'est Machiavel, en fait, comme l'a dit l'ambassadeur de France, elle arrive à bien manœuvrer. Elle va d'une part faire exécuter les principaux chefs des Streltsy, et puis elle va obtenir que les Streltsy finalement se rendent et déposent les armes. Donc les Streltsy vont venir au monastère de Sergiev Posad en suppliant la corde autour du cou, en portant les billots avec des haches en signe de repentance, en fait, et certains d'entre eux vont être effectivement exécutés. Voilà. On reprendra le cours du règne de la
régente Sophie. La régente Sophie qui règnera autour de 7 ans à peu près.
Ouais.
Merci cher Henri, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour la seconde partie de cette émission avec Adrien Renoir. Nous nous retrouvons dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 16 février 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 11 avril de 18h à 19h30 et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre au journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.